Eroua, Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 26 avril 2019. Nathalie Barge et Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres.
La présidence centrafricaine rappelle que l'accord de paix avec les groupes armés ne prévoit pas d'amnistie.
Après les Comores, le cyclone Kenneth a balayé la côte nord du Mozambique et menace la Tanzanie.
Dixième vendredi de manifestation en Algérie après une semaine marquée par de nouveaux limogeages.
Amnesty International dénonce l'arrestation de 13 manifestants au Tchad et appelle à leur libération.
Arrestation également en Turquie de 115 membres des forces armées pour des liens présumés avec Fethullah Gülen.
Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports.
En Centrafrique, en réponse aux critiques sur la nomination de plusieurs chefs de guerre à des postes gouvernementaux, la présidence a fait savoir que l'accord de paix conclu à Khartoum avec les groupes armés était soumis à la Constitution et n'accordait pas l'amnistie. Le point avec Irénée Armanoumbo.
L'accord de paix n'accorde pas l'amnistie et attaque de l'importance à la lutte contre l'impunité, explique la présidence dans un communiqué publié jeudi soir. Les accords de paix n'ont en aucun cas valeur de traités internationaux et sont au contraire soumis à la Constitution, a-t-elle souligné, indiquant le contexte exceptionnel et transitoire de ce type d'accord. Des opposants politiques, ONG et chercheurs ont fait part de leur crainte d'une amnistie générale et ont vivement critiqué les nominations des chefs rebelles. Human Rights Watch a appelé les procureurs de la République centrafricaine à mener des enquêtes sur les leaders de milices récemment affectés à des postes gouvernementaux. Certains ont dirigé des groupes armés responsables d'atrocités générales au cours des dernières années, a déclaré l'Organisation de défense des droits de l'homme. L'accord de Khartoum est le 8e document signé depuis le début de la crise, marqué par le renversement en mars 2013 du président François Bozizé. Riche en ressources naturelles, la Centrafrique est déchirée par la guerre qui a forcé près d'un quart des 4,5 millions d'habitants à fuir leur domicile.
Amnesty International dénonce l'arrestation de 13 manifestants au Tchad, disant qu'il s'agit du dernier épisode de la répression qu'imposent les autorités à toute personne exerçant son droit à la liberté de manifester pacifiquement. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'ONG appelle les autorités à libérer ces personnes qu'elle qualifie de prisonniers d'opinion. À l'appel du collectif contre la vie chère, des manifestants s'étaient regroupés hier à N'Djamena malgré une interdiction.
Nouvelle manifestation à Alger pour le 10e vendredi consécutif, une journée ayant valeur de test de la capacité de la contestation à rester mobilisée sur fond d'incarcération et de limogeage de symboles du régime Bouteflika. Ekiabadou.
Pas de demi-révolution, titre en une l'édition week-end du quotidien El Watan en appelant à continuer à manifester jusqu'au départ du système dans son ensemble. Des appels similaires continuent d'être relayés sur les réseaux sociaux. De nombreux manifestants ont rejoint en début d'après-midi, après la grande prière musulmane du vendredi, les centaines de protestataires qui s'étaient rassemblés dès le matin devant la Grande Poste, bâtiment emblématique du cœur d'Alger, devenu le point de ralliement de la contestation. Les milliers de manifestants scandent « Système dégage, vous avez pillé le pays, voleurs ». D'importants embouteillages bloquent les entrées de la capitale en raison de barrages filtrants dressés par les forces de l'ordre. Les protestataires pourraient être encouragés à poursuivre leur mouvement à l'issue d'une semaine marquée par de nouveaux limogeages, des convocations judiciaires et poursuites annoncées contre des caciques du régime et le placement des détentions provisoires de riches hommes d'affaires.
Un hélicoptère de l'armée de l'air marocaine s'est écrasé dans la localité de Tichla, au Sahara occidental, faisant 2 morts, un officier pilote et un sous-officier mécanicien, et 1 blessé. Une enquête technique est en cours pour déterminer les causes du crash, a rapporté l'agence officielle MAP.
Un bureau de MSF au Niger a été attaqué à Mayene Sarawa, dans la région de Diffa, a annoncé l'ONG à Niamey, déplorant un blessé léger parmi son équipe. Une ONG locale et des habitants ont attribué l'attaque aux éléments du groupe terroriste Boko Haram qui ont incendié les locaux de MSF en occasionnant d'importants dégâts matériels.
Plusieurs ONG et institutions internationales s'alarment de la situation de milliers de migrants en Libye, pris au piège des combats qui font rage depuis 3 semaines entre les forces loyales au gouvernement d'Union nationale et celles du maréchal Haftar. L'Organisation internationale pour les migrations recense près de 6000 étrangers retenus dans des centres de détention officiels. D'autres centaines sont détenus par des groupes armés dans d'autres installations échappant à tout contrôle.
Le cyclone tropical Kenneth a balayé hier soir la côte nord du Mozambique, faisant au moins 3 morts et détruisant de nombreuses habitations, 1 mois après le passage meurtrier d'Idai qui avait frappé le sud du pays. John Lindon.
Sur l'île d'Ibo, où vivent quelques 6000 habitants, 90% des maisons ont été détruites, selon l'Institut mozambicain de gestion des situations d'urgence. À Pemba, principale ville du nord et capitale de la province du Capo Delgado, une personne a été tuée par la chute d'un cocotier. Kenneth a été classé en catégorie 3 avec des vents de 160 km/h, moins violent donc que le cyclone Idai classé en catégorie 4 et qui a fait 1 millier de morts dans le centre du Mozambique et au Zimbabwe. Selon l'Institut national de météorologie, Kenneth, rétrogradé en dépression tropicale, poursuivait ce vendredi sa course dans les terres, mais avec des vents beaucoup moins violents. De fortes pluies sont cependant prévues dans les prochaines 24 heures, laissant craindre des inondations et des glissements de terrain dans le Capo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie. En prévision de ces nouvelles intempéries, les autorités ont transformé certains bâtiments publics en centres d'hébergement.
En Guinée, le chemin de fer de 135 km pour transporter la bauxite de Santou au port de Dapilon sera mis en service en juin 2021, a annoncé le consortium international SMB Winning, responsable de ce projet de plusieurs milliards de dollars, indiquant que 2 sociétés chinoises ont été choisies pour le construire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a assuré qu'aucune somme n'avait été versée pour les soins et le rapatriement d'Otto Warmbier en 2017, un Américain tombé dans le coma pendant sa détention à Pyongyang et décédé après son retour ici aux États-Unis. Le point avec Bagasikoura.
Aucun argent n'a été payé à la Corée du Nord pour Otto Warmbier, ni 2 millions de dollars, ni rien d'autre, a déclaré Donald Trump ce vendredi sur Twitter. Citant 2 sources proches du dossier, le Washington Post avait rapporté la veille que Pyongyang avait demandé en 2017 à Washington 2 millions de dollars pour les frais d'hospitalisation d'Otto Warmbier comme condition pour le rapatriement du jeune homme décédé à l'âge de 22 ans, peu après son retour aux États-Unis. Donald Trump a par ailleurs accusé au passage l'administration de son prédécesseur, Barack Obama, d'avoir payé 1,8 milliard de dollars pour 4 otages. Étudiant à l'Université de Virginie, Otto Warmbier avait été arrêté à Pyongyang en janvier 2016 lors d'un voyage organisé. Il avait été condamné en mars suivant à 15 ans de travaux forcés pour le vol d'une affiche de propagande avant d'être libéré en juin 2017 alors qu'il était dans le coma. La cause exacte de sa mort reste inconnue. Mais la justice américaine a conclu en décembre 2018 que l'étudiant avait été torturé pendant sa détention. Elle a condamné le régime de Pyongyang à 501 millions de dollars de dommages et intérêts.
Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il retirerait la signature du traité sur le commerce des armes adopté en 2013 par les Nations Unies. L'Amérique rejette ce traité, a déclaré M. Trump lors d'un discours à Indianapolis devant la NRA, le lobby des armes à feu. Ce texte avait été signé par le chef de la diplomatie américaine John Kerry sous la présidence de Barack Obama, mais n'a jamais été ratifié par le Congrès.
Washington, qui par ailleurs a imposé des sanctions financières contre le chef de la diplomatie du Venezuela, Jorge Areizea, le Trésor, va continuer de cibler les soutiens corrompus à Maduro, y compris ceux en charge de la diplomatie et de la justice pour le compte de ce régime que Washington juge illégitime. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin. Des sanctions ont également été prises contre une juge haut placée, Carol Padilla.
Arrestation en Turquie de 115 membres des forces armées. Les autorités étaient à la recherche de 95 autres à la mi-journée. Ils sont soupçonnés d'être des sympathisants du prédicateur Fethullah Gülen, accusé par Ankara d'avoir fomenté le putsch manqué de 2016. Monsieur Gülen, installé aux États-Unis depuis une vingtaine d'années, rejette ces accusations.
Le président afghan Ashraf Ghani a inauguré aujourd'hui la première session du nouveau Parlement, 6 mois après des élections législatives controversées. Des dizaines de sièges restent vides suite à des accusations de fraude. Le président a déclaré dans son discours que la majorité des nouveaux députés ont fait des études et font partie d'une génération plus jeune qui protégera les droits des femmes et les droits humains.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique à présent, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Morgane Grieck.
La Côte d'Ivoire bénéficiera d'un financement de 329 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour la construction du 4e pont d'Abidjan. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Le nouveau pont permettra de relier les communes de Yopougon et du Plateau. En février, les autorités annonçaient la ratification d'un autre accord de près de 145 millions de dollars conclu avec le Japon en vue de construire 3 échangeurs dans la capitale économique du pays. Le Sénat nigérian vient d'adopter le projet de loi sanctionnant le torchage du gaz naturel et les pratiques de l'industrie liées au gâchis énergétique. Une loi qui traîne dans les tiroirs de l'Assemblée depuis près de 40 ans. Selon des chiffres officiels, en 2018, l'ensemble des producteurs de pétrole et de gaz opérant dans le pays ont brûlé pour plus de 987 millions de dollars de gaz naturel. C'est l'équivalent de 282 milliards de pieds cubes standards de gaz. L'année précédente, 287 milliards de pieds cubes standards de gaz ont été torchés dans le pays. Les métaux précieux sont restés proches de leur niveau d'il y a 8 jours après un long week-end de Pâques, baissant en début de semaine avant de se redresser. Vendredi, l'or a d'ailleurs temporairement baissé face au dollar. Après la publication de la croissance américaine au premier trimestre, celle-ci s'est établie à 3,2% en rythme annuel, bien au-dessus des 2,3% attendus par les analystes interrogés par Bloomberg.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Plus de Cannes pour Cheikh Ndoye.
Oui, c'est officiel. L'international sénégalais est passé sur la table d'opération à Lyon. Le milieu de terrain victime d'une rupture des ligaments croisés du genou est out pour la Cannes 2019. Il y a quelques jours, Cheikh Ndoye hésitait et dans sa volonté de disputer la prochaine compétition avec le Sénégal, il préférerait une consolidation de son genou par des soins. Mais finalement, il s'est résolu à passer sur le billard. Ndoye, 33 ans, en aura pour quelques mois avant de revenir sur les pelouses.
Un international burundais est mort en plein match.
Malheureusement, Papi Fati, 28 ans, sociétaire du club Malanti Chief, s'est effondré pendant un match et est mort dans la soirée à l'hôpital où il avait été transporté. Le milieu de terrain international 28 sélections avait par le passé connu des problèmes cardiaques. En 2016, il s'était effondré par 2 fois en plein match et avait été contraint à un arrêt d'un an par les médecins du club sud-africain Bidvest White, où il évoluait alors avant de reprendre la compétition en 2017. L'année dernière, il a rejoint le championnat d'Iswahili. Papi Fati a récemment refusé de se faire opérer afin de pouvoir participer à la CAN en Égypte avec son pays, le Burundi, qualifié pour la première fois de son histoire.
En Europe, Robben et Ribéry proches d'un retour à la compétition.
Oui, les deux ailiers du Bayern Munich sont en phase de reprise, mais ne devraient pas être titulaires dimanche face à Nuremberg. D'après leur coach Niko Kovac, gêné par des problèmes musculaires en début de semaine, Franck Ribéry devrait débuter sur le banc pour un match qui comptera dans le duel à distance avec Dortmund pour le titre de champion d'Allemagne. Arjen Robben connaît une situation similaire. Le Néerlandais, qui n'a plus joué depuis novembre en raison de blessures à la cuisse et au mollet, a repris cette semaine les entraînements avec le groupe pour la première fois depuis presque 2 mois.
On termine par du basketball américain avec la NBA. San Antonio s'offre une finale contre Denver.
Et oui, les Spurs sont revenus à la hauteur des Nuggets dans leur duel du premier tour des playoffs en NBA en remportant le match numéro 6 120 à 103 à domicile. La franchise texane, qui n'avait pas le droit à l'erreur, a quasiment toujours fait la course en tête pour définitivement lâcher Denver en fin du troisième quart-temps. San Antonio et Denver sont dos à dos, 3 victoires partout et le vainqueur du match numéro 7 demain Bénin, à Delver, se qualifiera pour les demi-finales de la conférence Ouest.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge et Abdourahmane Dia en votre compagnie. Et à présent, les dossiers du jour.
En Centrafrique, les violences se poursuivent dans certaines régions du pays, malgré l'accord conclu en février dernier entre le gouvernement et les groupes armés. De nombreux Centrafricains affichent leur pessimisme sur cet accord de paix et de réconciliation. Voici un reportage de notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila, pour VOA Afrique.
Nombreux sont les Centrafricains qui ne maîtrisent pas encore le contenu de l'accord conclu entre le gouvernement et les groupes armés en février dernier à Khartoum au Soudan. Alors que le pays s'attendait à l'amélioration de la situation sécuritaire, la violence se poursuit dans certaines régions. Pour illustration, les éléments du FDPC, le Front démocratique du peuple centrafricain, un des mouvements signataires de cet accord, ont enlevé au début de cette semaine plusieurs personnes sur l'axe Boire-Garabulaï, la seule voie de ravitaillement de Bangui par le Cameroun. Dans le sud-est, les éléments de l'UPC de Ali Darassa ont incendié au moins 19 villages fin mars et début avril dans la sous-préfecture de Zamba, tuant plusieurs personnes. Toutes ces violences relancent le débat sur le respect de l'accord de Khartoum, dit de paix et de réconciliation. Anissé Georges Dologuele, le chef de l'opposition, s'interroge encore sur le contenu réel de cet accord.
Vous avez noté que depuis les accords de Khartoum, je n'ai pas ouvert la bouche. Parce que j'essaie de comprendre, je suis comme le reste de la population, il faut qu'on m'explique les différentes séquences de ces accords. C'est dangereux de tenir un peuple comme ça dans ce type de situation où il ne comprend pas ce qui se passe.
L'accord de Khartoum est moribond si les choses continuent de cette manière, alerte Cyriac Gonda, président du Parti National pour un Centrafrique Nouveau.
Je tire sur la sonnette d'alarme que si on continue de laisser des situations comme la situation dans la Basse-Côte, aller vers la Mambéré Kadéna. On a déjà vu avec Abdoulaye Miskine. On est en train de voir vers Berberati, etc. L'accord de Khartoum risque de s'envoler en éclats. Déjà, il y a une flagrante violation.
Pour Martin Ziguele, ancien Premier ministre et député de Bokaranga 3, il est inadmissible d'assister à de nouvelles exactions des groupes armés sur la population alors que leurs chefs sont nommés à des postes de responsabilité de l'État.
Cela est inacceptable. J'appelle la MINUSCA, j'appelle la communauté internationale, les garants et les facilitateurs de l'accord entre les partis et naturellement j'appelle le gouvernement à prendre toutes les dispositions pour que de telles choses ne se reproduisent plus. Il ne faut pas que dans un cas ils invoquent leur position de chef de groupe armé pour demander des avantages et dans l'autre cas ils disent que c'est des incidents provoqués par leurs éléments sur le terrain à leur insu ou contre leur gré, mais quand même il n'y a personne pour dire qu'est-ce qu'on fait des morts, qu'est-ce qu'on fait des blessés, qu'est-ce qu'on fait des dégâts matériels, qu'est-ce qu'on fait des villages brûlés, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui se sont réfugiés à l'étranger et les enfants et l'école et les centres de santé.
Le gouvernement conscient de ce qu'il qualifie d'incident après la signature de l'accord de Khartoum, demande aux groupes armés de respecter leurs engagements. Ange-Maxime Kazagui, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement.
Le fait que nous ayons signé un accord ne veut pas dire que du jour au lendemain, il n'y aura plus d'incidents. Nous les observons encore. Nous revenons de 20 à 30 ans de difficultés, de troubles dans notre pays. Ça ne va pas se régler en deux jours.
La société civile invitée à Khartoum comme observateur lors des pourparlers entre le gouvernement et les groupes armés n'ont-on pas baissé la garde? Elle exige l'annulation du décret portant nomination des chefs rebelles étrangers à des postes de responsabilité de l'État. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Soudan, les manifestations se poursuivent pour obtenir le transfert du pouvoir à une administration civile. Le Conseil militaire a conclu un accord mercredi avec l'Alliance pour la liberté et le changement, mais certaines divergences demeurent. Pour une analyse, Claire Morin-Jubourg a joint le Conseil spécialisé sur le Soudan pour l'organisation américaine Enough Project. Il s'agit de Souleymane Baldo.
Alors, il y a accord entre le Conseil militaire de transition et la coalition des forces pour la liberté et le changement sur, disons, le cadre institutionnel pour la période de transition. Le Conseil militaire semble concéder sur le point d'un cabinet de ministres qui serait composé des technocrates et qui serait entièrement civil, sauf pour les ministères de défense et de l'intérieur qui seront alloués aux militaires et à la police.
Pensez-vous donc que les militaires veulent garder la mainmise sur les ministères clés?
Les militaires ne disputent pas, disons, le mandat des civils pour le cabinet des ministres. L'objet de différence, c'est le conseil souverain, c'est-à-dire le conseil qui joue le rôle de chef d'État. L'opposition politique veut que ce conseil soit d'un pouvoir nominatif et n'exerce pas de pouvoir réel, qu'il soit un représentant de la souveraineté de l'État, que l'armée au sein de ce conseil souverain a le rôle de préserver la transition et de la protéger, et que le conseil souverain soit composé des civils avec une représentation de militaires. Le conseil militaire de transition veut continuer dans ce rôle comme conseil militaire uniquement. Il ne veut pas, disons, une formule mixte de civils et de militaires où l'autorité serait dans la main des civils et où le rôle de conseil sera symbolique plutôt que d'autoritaire.
Quelles sont vos principales craintes sur l'évolution de la situation au Soudan ?
Il est bien qu'il y a dialogue maintenant entre la coalition qui représente les protestataires et le conseil militaire. C'est mieux d'avoir une rupture. Deuxièmement, les craintes de la population, des protestataires et de l'opposition politique sont réelles. Le régime du président Omar al-Bashir était au pouvoir pendant 30 ans. Il a pris contrôle total de l'économie, des organes de sécurité, du service public. Ils sont bien enracinés partout et il y a des craintes réelles que les agents, les éléments de cet organe-là vont essayer de saboter la période de la transition pour essayer de préserver les bénéfices qu'ils ont obtenus par le contrôle total du pouvoir.
C'était Suleiman Baldo, conseiller pour Enough Project. Il était joint à New York.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
La 12e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo a été lancée mardi à Abidjan. Mais c'est véritablement ce soir que les concerts grand public démarrent avec au programme 16 artistes comme Oumou Sangaré, l'Ivoirienne José ou encore la Camerounaise Manibella. Il s'agit d'un panel d'artistes sélectionnés équitablement entre hommes et femmes. Le thème de cette année est genre et développement. Et Kiabadou a joint à Abidjan Salif Traoré, le commissaire général du FEMEA.
Il était important de mettre un accent particulier sur ce sujet-là qui tarde à être mis en place en Afrique, alors que les grandes démocraties ont compris cela. Il était important de comprendre que la femme pouvait jouer un rôle très important dans le développement de l'Afrique. On s'est dit que cela doit commencer par des messages de sensibilisation, essayer aussi de trouver tous les canaux possibles pour que la parité du genre soit respectée entre hommes et femmes.
Dans cet engouement, vous avez quand même mis dans la programmation des choses vraiment très posées. On a eu un documentaire avec les mutilations génitales. Comment le public a recueilli cela ?
Et je crois que c'est pourquoi je dis souvent la campagne de sensibilisation prévient mieux que toute autre chose. Donc il a fallu mettre en compte ce genre d'initiatives, de vidéos, des choses qui parlent aux populations parce que certains peuvent être ignorants de vraies réalités. Donc c'est à travers ces projections, à travers ces messages, musique, avec des contacts directs, qu'on peut faire changer la mentalité des gens.
Alors, on a vu que chaque année, en tout cas, c'est l'objectif d'ouvrir une nouvelle école Magic System avec la Fondation. Ouais. Donc, il y a eu une tout dernièrement Mix qui a été ouverte à Odjéné, au nord de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il y en a une autre à Bondoukou qui va ouvrir uniquement pour les filles. Pourquoi ?
C'est le moment de faire croire que la fille occupe une place importante dans la société. faire une école dédiée à la jeune fille, c'est un message fort à l'endroit des gens pour dire on en a assez, que chaque fois dans une classe, on arrive sur 80 élèves, il y a 70 garçons et 10 femmes. C'est dire faire une école dédiée aux filles, c'est mettre un accent particulier sur la place qu'on veut donner à la femme dans cette société.
C'était Salif Traoré, le commissaire général du FEMOI, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a proposé cette semaine de nouvelles mesures visant à sévir contre les étrangers qui outrepassent la date d'expiration de leur visa et restent illégalement sur le territoire américain. La nouvelle politique punira les pays avec des taux élevés de dépassement de visa. Elle affectera principalement les pays africains. Le reportage de Patsy Widakusara, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, et c'est relaté ici par Jacques Aristide.
Plus de 9 millions, c'est le nombre de visas non-immigrants que les États-Unis ont délivrés l'an dernier. On compte parmi les bénéficiaires des touristes, des étudiants et des travailleurs temporaires. Ils sont venus du monde entier. Mais le hic, environ 2% d'entre eux ne sont pas repartis chez eux à la date butoir. La Maison-Blanche n'est pas contente. Elle a donné 3 mois au secrétaire d'État et à la sécurité intérieure pour régler le problème ou tout au moins réduire à ce taux. Sur le banc des accusés, les pays avec les plus forts taux de séjour prolongés. S'ils n'agissent pas, ils pourraient se voir imposer des conditions plus sévères en matière de visa américain. Quant aux voyageurs, ils pourraient être astreints au paiement d'une caution qui leur serait remboursée à leur départ des États-Unis. Cette politique est vue comme une nouvelle initiative du président Trump pour combattre l'immigration clandestine.
Le Congrès doit cependant également agir pour corriger nos lois sur l'immigration, qui sont horribles, obsolètes, faibles et pathétiques.
Les étrangers dans cette situation irrégulière dépassent le nombre de personnes arrêtées à la frontière américaine, ce qui représente, d'après le gouvernement, une tranche importante des quelques 11 millions d'illégaux en Amérique. Mais faut-il cibler les pays avec les plus forts taux de dépassement ou les pays dont les ressortissants sont plus nombreux à prolonger illégalement leur séjour? La distinction est à faire et la question fait débat. Rick Sou, professeur à l'université de Buffalo.
Le Tchad a un taux de dépassement de séjour d'environ 20%, mais cela ne représente qu'environ 140 personnes en 2017, alors que vous avez un pays comme le Royaume-Uni qui compterait plus de 23 000 dépassements de séjour en 2017. Le Royaume-Uni a toutefois un taux qui est très bas, mais 23 000 est un chiffre qui dépasse largement celui de 140.
Djibouti, l'Érythrée, le Libéria et la Somalie sont parmi les autres pays avec les taux les plus élevés. Quelles mesures pourraient-ils prendre pour convaincre leurs ressortissants de rentrer? La réponse n'est pas encore connue. Pour des militants pro-migrants, la nouvelle initiative vise injustement les pays africains et pourrait être contestée devant les tribunaux. Sama Magona Sissé, du Comité des services africains.
Si le gouvernement décidait de limiter les visas d'affaires B1, B2 à des ressortissants des pays africains, vous pourriez intenter un procès pour discrimination et affirmer que ce changement de règles ou ce changement administratif est arbitraire et discriminatoire.
Une autre raison est avancée pour ce qui est de ces pays dans le collimateur. Le professeur Rick Sou, de nouveau.
Ce sont des petits pays et l'administration américaine peut penser qu'il est plus facile de traiter avec eux que d'essayer de s'attaquer à ces grands pays comme le Canada, le Mexique ou le Royaume-Uni.
Ils sont en fait 3 des 5 pays, les 2 autres étant le Brésil et le Venezuela, avec le plus grand nombre d'individus qui séjournent sur le territoire américain au-delà de la validité de leur visa. Pour l'administration Trump, s'attaquer à ce problème d'abus de visa expiré est prioritaire afin, dit-elle, de protéger les contribuables américains.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, job blessed, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Michel Joseph. À la console, c'était Justin Tweet. À la présentation, Nathalie Barge et Abdourahmane Kia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellent week-end à tous.
Bienvenue à bord.